Bonjour Mathias.
Salut Gab, ça va?
Ça va super bien.
Très bien.
Fait que je suis content d'avoir accepté l'invitation. On va essayer un nouveau concept. Je vais te lancer des sujets. Ok, puis tu me dis si c'est overrated, underrated.
Oh, okay.
Puis si tu veux vraiment me donner ton opinion par rapport à ces sujets-là aussi, je pense que. Tu sais, l'objectif c'est d'éclairer les investisseurs, les propriétaires aussi. T'sais, on entend plusieurs choses, c'est le marché aussi. Fait que je vais vraiment avoir quelqu'un d'expérience qui donne son opinion. D'un point de vue de tout ce que tu vis là avec tes qui investissent ça.
Ouais, mais je vais y aller du mieux que je peux, puis je pose-moi des questions, puis on essaie ça, on y va.
OK, parfait. Fait qu'on va commencer avec une facette d'investissement dans la construction neuve, tu sais, c'est tendance.
Ouais, underrated présentement. C'est tendance, mais vraiment, je pense qu'il y a une place incroyable qui peut être prise à des investisseurs. Beaucoup de constructeurs qui faisaient de la maison, du condo, qui décident de migrer vers la construction neuve, multilocative, garder des actifs, faire travailler leur propre monde. Ça, j'en vois beaucoup présentement. Donc, je sens que ça s'en va vers un océan rouge, mais présentement, on est dans un océan bleu au moment où on se parle.
Parfait. L'investissement dans l'immobilier existant, fait, tout ce qui a trait à l'optimisation des immeubles.
Ouais. Ça, je dirais overrated et underrated. Dépendamment qui tu es dans le marché, il y a tellement de barrières dans l'optimisation au moment où on se parle, que je pense que ça peut être problématique si tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Donc, si tu embarques dans un immeuble, dans un achat d'immeuble, un financement, tu fais des travaux, là, tu peux te confronter à l'avis 248 de la SCHL, tu peux rencontrer des problèmes avec les locataires au niveau de la rénoviction, hein, c'est très, très, très un sujet discuté présentement. Donc, je pense que ça dépend qui tu es, ça dépend c'est quoi ton expérience. Pour te lancer, peut-être faire un achat détention, une grosse optimisation, ça peut mener à bien des problèmes si tu as moins d'expérience. Donc, c'est important de se former de ce côté-là.
Merveilleux. L'investissement dans l'immobilier industriel.
Oui, overrated, à mon avis. Je pense que dans les dernières années, ça a été super bon. Le taux pied carré a monté quand même assez rapidement. Mais je pense que faut laisser place aux gens qui connaissent vraiment l'industriel. Puis je pense que de quelqu'un qui se lance en industriel aujourd'hui, ça peut être difficile. C'est mon avis.
Parfait. Commerce de détail.
Oh. Ça, c'est neutre, je dirais. Encore, même réponse. Une réponse un peu plate, mais je pense que si tu as déjà du commercial, que tu as des contacts pour de la location commerciale, tu as des contacts dans des entreprises qui cherchent des locaux, ça peut être super bon. Si tu as du multilocatif puis tu veux t'acheter un commercial pour aller rechercher peut-être une source de cash flow, je pense que ça peut-être être un peu plus difficile en entrée, surtout avec ce qu'il y a eu, le télétravail qu'on en entend parler beaucoup. Je pense que ça retourne beaucoup au bureau. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de renvoyer les gens au bureau. Il y a encore quand même une présence au niveau du télétravail qui fait en sorte que le pied carré par locataire a diminué un petit peu. Donc, ça peut être problématique de ce côté-là.
OK. Investir dans le terrain, avant même qu'il y ait une construction.
Underrated. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Je pense qu'il y a une grosse mine d'or, on l'a vu avec Luc Poirier dernièrement avec son terrain, mais autre que Luc Poirier, à beaucoup plus petite échelle, j'en fais personnellement, puis les projets de construction, puis je pense qu'il y a quand on apprend bien comment ça fonctionne, le comment derrière, le pourquoi, je pense que ça, c'est vraiment underrated. Ouais.
Le financement PHTLEC?
Neutre, je trouve qu'il est à la bonne place. Je trouve qu'il est là. Il n'est pas overrated, il n'est pas underrated. Les gens l'utilisent parce que présentement, on en a besoin. J'ai hâte de voir quand les taux vont redescendre, quand le financement SCHL, APH, non select va être sur place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais pour l'instant, je trouve qu'il est à la bonne place. Donc, pas under puis pas over.
C'est un outil, il faut savoir l'utiliser.
Exact.
Aussi, dépendamment des projets.
Exactement.
Maximiser son ratio prévaleur lors d'un refinancement.
Neutre. Je pense que c'est important de maximiser si on a du développement, si on veut récupérer nos billes pour faire d'autres projets. Je pense pas que de maximiser pour s'asseoir et chercher est la bonne solution. Moi, je dis souvent à mes clients, quand on fait des refinancements, notre objectif, peut-être, on me dit, ben, moi, Matt, je veux sortir le plus de liquidités possible, mais c'est parce qu'ils ont des projets sur la table, ils veulent faire autre chose. Donc, si tu as des projets sur la table, c'est super bon parce que tu vas maximiser ton capital. Mais si tu n'as pas de projet, puis tu dis, je refinance, puis j'attends de voir s'il y a un deal qui arrive, ça, je suis moins fervent de ça.
Puis, pour une acquisition, maximiser son ratio prévaleur.
Ouais, ça, c'est underrated. Je pense que c'est vraiment important de maximiser son ratio prévaleur en acquisition. Bon, on le sait, hein, je ne vous apprendrai rien, là, quand on met moins de mise de fonds, notre rendement est meilleur. Je pense aussi que, dépendamment de la stratégie qu'on veut faire, même si c'est du conventionnel pour optimisation, du prêt alternatif, je pense que c'est toujours important quand même d'aller maximiser son ratio prêt-valeur pour nous permettre d'avoir le plus de liquidité possible pour peut-être passer à l'action sur un autre deal ou tout simplement s'occuper du deal qu'on a actuellement.
Parfait. Investir en partenariat.
Oui. Underrated. C'est très populaire, mais je trouve que c'est encore underrated. Il y a encore beaucoup de monde qui veulent être un peu lone wolf, tu sais, qui veulent faire un peu à leur méthode. Puis c'est correct, il y en a plein comme ça, mais je pense qu'en partenariat, j'ai vu des choses incroyables se monter. Il y a des histoires d'horreur aussi. Mm-hmm. Mais si un partenariat est bien ficelé, je pense que ça peut être vraiment puissant, vraiment, vraiment puissant. J'ai vu des gens se monter des valeurs nettes, puis pas juste le nombre de portes. Là. On parle pas en nombre de portes, on parle en nombre de valeurs nettes. J'ai vu des gens se monter une valeur nette avec des liquidités qui n'auraient pas pu aller là initialement grâce à ça. Fait que je pense que c'est underrated.
Il y a des outils juridiques qui existent, des conventions d'actionnaires. C'est ouais. assez bien fait. Tu sais, ça protège toutes les parties.
Exact. J'en ai dans mes projets de construction. J'ai des gros projets de construction, mais des corrects projets de construction parce que quand je compare mes clients, des fois, je commence. C'est pas des gros projets, mais. Tu sais. Je pense que la convention actionnaire, on a investi énormément d'argent là-dedans pour faire en sorte qu'elle soit bien ficelée pour tout le monde, que tout le monde soit confortable à travers ça. Mm-hmm. Puis une fois qu'on a ça, bien, c'est écrit noir sur blanc. Associe-toi avec des gens qui sont respectueux, qui ont la même valeur que toi, qui ont la même vision que toi. Puis je pense que le reste devrait bien aller. Si tu es transparent à ton tour, tu sais, c'est vraiment important de faire les deux. Là.
Maintenant, un sujet d'actualité, l'abolition de la TPS, la condition d'âge.
Neutre, je te dirais. C'est un bon coup de pouce, mais il en manque.
C'est pas
underrated parce que c'est bien, ça fait vraiment mm-hmm. du bien. Tu donnes un exemple, moi j'ai un projet de 24 logements que je construis, ça me donne 154 000 de rabais par 24 logements, ce qui est vraiment intéressant. Mais je pense qu'il en manque encore. Je pense qu'il faut en donner plus. Il faut que le gouvernement en donne plus pour aider les promoteurs. Puis ça va passer par soit la TVQ, soit par l'accélération des permis. Il y a plein d'enjeux que présentement les promoteurs font face, puis que le gouvernement doit interagir s'ils veulent faire en sorte de créer du logement. Parce que, pas oublier, Gab, que présentement, on dit que les loyers sont trop chers, mais les loyers sont trop chers un peu à cause du gouvernement, à cause du fait qu'ils ne nous autorisent pas à construire aussi rapidement qu'on le souhaite, ils ne nous autorisent pas à densifier autant qu'on le souhaite, les nombres d'étages. Il y a plein d'enjeux que les promoteurs rencontrent présentement, que si c'était pas ça, il y aurait un paquet de portes qui pousserait. Puis on aurait une offre beaucoup plus grande, donc un prix beaucoup plus modéré par rapport au marché actuel.
Parfait. Le prêt privé pour les projets de construction.
Underrated. Les gens fuient le prêt privé. Des fois, on entend parler de prêt privé, on parle de gros taux d'intérêt, gros frais de dossier. Mm-hmm. Mais surtout dans les plus petits projets, là, on a réussi à faire des dossiers, là, des 6 logements en construction. On est allé chercher les financements en une semaine. Puis qu'on était capable d'avoir un premier déboursé là, en une semaine et demie, mettons. Là, fait que ça, c'est vraiment underrated présentement au moment où on se parle. Puis je pense que c'est une stratégie qui peut être intéressante pour les investisseurs qui ont un bon plan de match, qui savent où ils s'en vont. Parce que disons, un 6 logements dans PHLEC, c'est très coûteux, très onéreux, c'est long. Pour que ce que ça donne par rapport à un financement prêt privé qui pourrait être intéressant aussi. Je vous dis pas que c'est l'option number one, mais je vous dis que c'est une option qui est underrated présentement.
L'association des opinions dans les soirées de réseautage, en tant que professionnel ou investisseur?
Underrated, 100%. Ouais. Moi, j'apprends tellement quand je vais dans le réseautage. J'aime parler aux gens, j'aime apprendre des succès des autres, j'aime voir c'est quoi tes erreurs que tu as faites, c'est quoi les bonnes choses, les mauvaises choses. Je pense que c'est important d'apprendre de ça parce que tu l'appliques après ça par la suite dans tes projets à toi. Donc, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de mes clients par rapport au financement. Je les ai aidés à amener leurs projets, mais eux, ils m'ont donné des conseils sur d'autres facettes que moi, j'ai pas, tu sais. Puis la fameuse phrase, je connais pas tout, mais je connais tout le monde qui connaît mm-hmm. tout. Ça, je trouve ça tellement important. Donc, underrated, vraiment. C'est vraiment important de discuter avec les gens puis de voir un peu leur opinion puis leur façon de faire dans différents projets. Là.
Le financement APHL avec l'efficacité énergétique.
Oui. Présentement, c'est très sollicité, mais c'est underrated encore, je pense. Beaucoup de dossiers financement APHL avec efficacité énergétique, on est capable d'aller chercher des 100 points, qui peut être très intéressant dans la déconstruction et plus ou moins onéreux par rapport à ce que les gens en pensent. Souvent, les gens font comme « Ah, je m'attendais pas à ce que ça coûte. Je pensais que ça allait coûter plus cher. » Fait que c'est quand même intéressant. C'est sûr que la zone géographique où vous êtes est quand même importante. Mais si vous êtes dans une zone qui est correcte, puis que vous avez un projet de construction, je pense que l'efficacité énergétique est à considérer. Point important aussi, bien évidemment, les immeubles récents en amélioration efficacité énergétique, ça aussi, c'est underrated. J'ai fait un 101 logement dernièrement qui a été construit en 2021. Et on était capable d'aller chercher un 100 points en efficacité énergétique en l'améliorant. Donc, il n'était pas au top de sa capacité. On a pu profiter de l'OPH chez LEC efficacité énergétique de par rapport à ça. Fait que c'était vraiment un beau coup de circuit, ce dossier-là.
Surtout qu'il y a des acquisitions sur plan aussi, puis qu'il y a le constructeur ou le vendeur qui est encore impliqué aussi, ça permet de négocier des belles solutions.
Exact. Il y a même tu m'ouvres même la porte à des promoteurs qui font des 6, décident d'en vendre, ou des 12, des 24. Ils décident d'en garder deux, ils en vendent un. Puis là, celui qui vend, bien, ils l'ont déjà fait en efficacité énergétique, il est prêt pour que l'acheteur puisse passer à l'action pour l'acheter en efficacité énergétique en PHLM. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que il fait un profit à la vente, donc il y a un certain profit qui est encaissé, puis les deux autres, il les garde pour la détention long terme, pour son parc, puis il recommence, puis il recommence, puis il recommence. Puis des gens se monter des empires comme ça, vraiment.
Ouais. Ensuite, la gestion active des actifs immobiliers.
Underrated. Moi, je m'en suis rendu compte dans mon parcours. Je m'en suis rendu compte dans mon parcours parce que, bien évidemment, je veux me concentrer à 100% sur mon courtage, qui est ma business principale. J'ai investi dans plusieurs immeubles, j'ai quelques immeubles, et j'ai des partenaires qui sont actifs dans la gestion, et j'ai des immeubles qui sont en gestion. Et la gestion que j'ai choisie, c'est super, j'ai rien à dire, tu sais, j'adore ça. Mais le upside d'être à l'intérieur même de son immeuble, tu sais, de gérer à 100%, d'être au courant de tout de A à Z, underrated. À mon avis, c'est vraiment intéressant ce que tu peux faire avec ça. Pourquoi? C'est que, bon, bien évidemment, tu vas driver les revenus d'une belle façon, tu vas avoir un beau contact social avec tes locataires aussi, donc ça évite des bris, des choses comme ça. Vraiment, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que si j'avais à refaire, j'aurais peut-être des partenaires plus actifs dans mes immeubles et non peut-être moins sous gestion. Malgré que mes immeubles suggestions vont super bien aussi, là, mes immeubles neufs, ça va bien, mais quand même, j'ai vu la différence. Donc, underrated.
Travailler avec différents professionnels spécialisés dans l'immobilier commercial.
Underrated, vraiment important. J'ai vu des gens vouloir être un peu lone wolf, comme on parlait tantôt, puis se planter carrément dans un projet. Puis pas juste des gens qui commencent. Là. J'ai vu des très gros joueurs arriver avec un portefeuille et dire « Matt, voici ce que je veux construire. » On recrunche tout ça. C'était dans le mur. On s'en allait dans le mur. Donc, c'est tellement important de travailler avec le bon ingénieur, que ce soit en efficacité, mécanique, peu importe. Après ça, c'est d'avoir des bons évaluateurs qui font des évaluations qui font du sens. Donc, c'est important, surtout en construction neuve. C'est des valeurs projetées. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui est efficace là-dedans, de travailler avec un bon consultant coût. Ça coûte tellement cher, un mauvais consultant coût. Je vous le dis, ça coûte cher. Travailler avec des bons consultants coût, travailler avec des bons courtiers aussi. Des bons banquiers, si vous avez des banquiers, assurez-vous que vos banquiers sont efficaces, que votre courtier connaisse le projet de construction que vous êtes en train de faire ou connaisse les étapes futures de ça. Et là, on ne parle pas juste de vous faire économiser sur le taux d'intérêt. Là, on est loin de ça. On n'est même pas là. Là, on parle de prendre le client par la main et de l'amener jusqu'au déboursé. Puis après ça, on va avoir le meilleur taux. C'est vraiment le processus en soi est très complexe et chaque virgule compte. Chaque virgule va faire en sorte que vous allez aller chercher plus de financement. Et on le sait, au final, dans votre projet de construction, ce qu'on veut, c'est laisser le moins de billes possible et d'avoir un financement qui est le plus efficace possible. Fait que c'est super important de ce côté-là.
OK. Geler son taux d'intérêt.
Ça, c'est neutre, mais c'était underrated dans les dernières années. Pourquoi? C'est que présentement, je ne vois pas l'intérêt de venir fixer les taux pour mes clients. Parce que touche du bois, on s'en va probablement vers une baisse de taux d'intérêt ou du moins dans les prochains mois, une stabilisation. Donc, le taux fixé, c'est plus ou moins une stratégie qu'on utilise maintenant. Par contre, il y a les deux dernières années, ça a été extrêmement important dans tous mes dossiers. Ça a été crucial. On avait plus de 100 dossiers en cours, puis on a fixé la majeure partie de nos clients et on est venu sauver des meubles, gars. Mais des meubles, là, si je te le dis, là, on a déboursé des dossiers à 2,89 quand les taux étaient à 4,20%. Imagine-tu à quel point on avait fixé des 12 mois et des 18 mois d'avance. Pourquoi? C'est qu'on venait fixer une stratégie pour dire, écoute, peu importe ce qui va arriver, on fixe ça, on va avoir ce taux-là à la fin du contrat c'est le client qui en bénéficie. Bien sûr, il y a les swaps de taux aussi pour des projets plus d'envergure qu'on est venu mettre en position dans des moments stratégiques qui ont fait en sorte que les gens ont fait de l'argent avec le swap. Mais je pense que underrated, là, vraiment, là, des taux d'intérêt fixés d'avance, là, je trouve que c'est une belle stratégie. C'est vraiment une belle façon de venir sécuriser un dossier, surtout dans des périodes de hausse de taux.
C'est sécuriser un dossier, puis c'est rester en contrôle aussi dans sa transaction sur des variables qui techniquement fluctuent. Aussi, fait que malheureusement, tu es capable d'avoir le contrôle là-dessus.
C'est
si
tellement
à l'avance aussi, ben, puis tu es organisé, je pense.
Oui, puis c'est surtout mettons, que là, on parle pas d'une transaction. Là, mais on parle, j'ai des clients qui avaient 4 transactions en même temps. 4 transactions en même temps qu'on a déboursé en dessous de 3%, mais qu'il aurait pu être déboursé à du 4.10. Imagines-tu la différence en termes d'apport en liquidité ou en rachat de taux potentiel parce que le dossier était déjà approuvé, c'est fou, là. C'est complètement fou. Mm-hmm. Fait, c'est beaucoup d'argent que les gens auraient laissé sur la table qui aurait fait en sorte qu'ils n'auraient pas acheté le 5e ou le 6e projet que je suis en train de financer avec eux, tu comprends? C'est tellement important.
On parle des taux d'intérêt, le downside de ça, le financement créatif, t'en penses quoi?
Ah, overrated. Le financement créatif, j'en entends tellement parler, c'est tellement rendu une mode, tu sais. Puis c'est correct, tout le monde roule leur boss. Là. Mm-hmm. Il y a des cours qui sont super bons. Tu sais, je donne des cours dans certains dans santé clubs ou comme l'IMREX, disons, où tu sais, qu'on apprend aux gens le financement sur la ligne dure, du garde, voici ce qu'il y en est, voici où tu dois t'en aller. Puis après ça, par la suite, si tu veux ajouter de la créativité, à toi de le faire, mais tu peux pas dire je vais être créatif de A à Z, sans mise de fonds, sans liquidité, sans valeur nette, sans expérience. Tu peux pas faire ça. Puis, je vois des vidéos des fois qui moi, ça me fait rire un peu. Là, viens, je vais t'apprendre à acheter un immeuble en financement créatif avec 15 000 $. Écoute, j'ai financé pas loin de 300 quelques millions l'année passée, puis j'ai pas un client qui avait juste 15 000 pour acheter un immeuble. Là, c'est jamais arrivé. Donc, oui, il y a potentiel de trouver un partenaire qui va faire en sorte de mettre votre liquidité. Oui, il y a potentiel de trouver un immeuble avec un deal. Lorsque tu as un deal, les fonds vont venir, mais les fonds doivent venir de quelque part, c'est important. Donc, c'est pas, il n'y a pas de créativité de pas mettre zéro mise de fonds, de récupérer les billes au notaire. Ça marche pas, ça. Il y en a une majeure partie que ça peut être de la fraude, puis les banques, s'ils découvrent ça, ils vont vous barrer. Donc, les financements créatifs, il y en a qui sont bien ficelés, si on parle de balance de vente, des choses comme ça, mais ça, c'est pas de la créativité, c'est de la base, tu comprends? Quand on tombe dans le créatif, c'est que là qu'on tombe dans des endroits où on veut pas aller en tant que courtier, puis qu'on veut pas aller en tant qu'investisseur. Faites pas ça. Partez votre carrière du bon pied. Si vous avez pas de liquidité, là, trouvez-vous un bon deal, là, puis après ça, vous allez trouver l'argent. Quittez-vous pas.
Balance de prix de vente. Overrated, underrated.
Neutre. Je pense que c'est important, la balance de vente. Je pense que c'est une belle façon de venir négocier un vendeur. Par contre, si on s'en va à CHL avec ça, ben, on risque de se faire revirer là, le CHL présentement. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher balance de vente. Pourquoi? C'est qu'on est maximisé tout le temps au ratio de couverture de dette, donc il n'y a pas de place. La balance de vente en conventionnel, si on a des travaux à faire, des choses comme ça, ça peut être super intéressant pour venir compenser un ajout en liquidité, un apport en liquidité. Mais autre que ça, moi, je trouve pas ça underrated, la balance de vente. Là. Je trouve ça comme, si elle est là, ça fait du sens, prends-la, mais dans certains cas, on n'en a même pas besoin.
Le marché s'est sophistiqué dans les dernières années.
Vraiment.
Aussi. Beaucoup. Puis les institutions financières, les prêteurs, tous les intervenants de marché aussi.
Ouais.
Fait que ça se complexifie.
Ouais.
L'accessibilité, le critère d'accessibilité en APH Select.
Overrated.
100%.
J'ai plein de clients qui se sont lancés là-dedans au début quand l'APH est sorti. Là. Puis c'est. Je trouve que c'est overrated parce que, mettons, tu construis un 60 logements, tu le fais en accessibilité, ça te prend une clientèle cible pour tes logements accessibles universels. Donc, il y a des locataires qui aimaient moins ça, qui n'étaient pas, mettons, en mobilité réduite, qui aimaient moins ça, le fait d'avoir, mettons, des rentes, des choses comme ça. Donc, je pense que ça te prend une clientèle très nichée. Donc, si tu es dans un secteur où tu as une clientèle qui te le permet, ça peut être super intéressant. Mais dans un cas où tu n'as pas de clientèle nichée, tu es dans un endroit très familial, très jeune, très étudiant, je pense que c'est se carrer des points qui est très coûteux pour pas grand-chose. Donc, je ne dis pas de ne pas faire l'accessibilité. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est de regarder le secteur et le besoin de votre secteur. C'est super important. Mais c'est overrated.
Les prêteurs alternatifs.
Underrated. Ouais.
Puis pourtant, que tu regardes tous les prêts hypothécaires dans le commercial, puis en multi, c'est une grande part du marché.
Ouais. Underrated quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore. Donc, je parle à énormément de gens dans ma semaine. Puis, je sens qu'ils n'ont aucune idée que ça existait, tu sais, des prêts qui vont permettre d'aller chercher des financements plus grands, s'extendre un peu sur ton ratio de couverture de dette. Donc, dire, si tu as un ratio de couverture de dette en optimisation qui est plus serré, on a des prêteurs qui sont capables de s'étirer pour aller chercher un financement, un genre de loan to CMHC. Ça peut être intéressant. C'est pas vrai. Neutre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en font présentement à cause de la vie 258, mais il y a beaucoup de gens encore qui le connaissent pas. Fait que je suis un peu mitigé dans celui-là. Je te dirais neutre. Ouais.
Ça dépend t'es où.
Exact.
Les prêteurs conventionnels.
Prêteurs conventionnels overrated. Ouais, je trouve. Pourquoi? C'est que ton apport en liquidité va être grand au moment où on se parle. En tout cas, là, c'est intemporel. On est en janvier là, 2024. Donc, au moment où on se parle, les prêteurs conventionnels n'ont pas beaucoup de capacité de financement à cause des ratios de couverture de dette. Donc, les taux d'intérêt sont trop élevés. On en faisait du financement conventionnel il y a quelques années quand les taux étaient à 1,52 en SCHL. Là, on en faisait parce qu'on avait des bons taux quand même en conventionnel. On pouvait aller chercher du 2,5. Les ratios de couverture de dette faisaient du sens. On était bloqué avec. On était capable d'aller financer en conventionnel puis après ça, refinancer en SCHL. Mm-hmm. Ça, c'était une stratégie qui fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne plus ou moins. C'est difficile de financer en conventionnel. L'apport en liquidité est tellement grande. À moins d'être super liquide, ça peut être une option logique, mais il y a plein de financements potentiels directement avec la SCHL en APH, avec les prêteurs alternatifs qui peuvent être super intéressants, qui est un petit peu plus onéreux. Puis la différence du coût entre le conventionnel et le prêteur alternatif n'est pas si grande maintenant. Avant, l'écart était tellement grand que les gens optaient pour le conventionnel. Maintenant, quand tu es capable, le prêteur alternatif peut être une solution super intéressante. Donc, overrated. Ouais.
Puis un dernier, le flip immobilier.
Le flip immobilier, moi, je pense que c'est overrated. Je pense que si tu n'as jamais fait ça, tu commences ta carrière en immobilier, je pense que tu peux te planter solide. J'ai vu des gens très expérimentés avec des belles notions de la construction qui se sont plantés, qui ont bouffé de l'argent puis qui ont fait finalement, sais-tu quoi, je vais acheter un immeuble, je vais rénover un appartement par appartement, je vais monter ma valeur économique puis je vais contrôler ce que je fais. De vouloir acheter un immeuble qui est en décryptude, de vouloir le flipper au complet, la décontamination, tout ça, c'est quand même des risques qui sont quand même assez importants. Si vous n'êtes pas, puis là, je suis en train de parler, si vous avez des fonds illimités puis que vous êtes un investisseur aguerri, c'est complètement le contraire. Là, je vous dirais, let's go, foncez là-dedans parce que vous avez la capacité financière de le faire. Vous avez la capacité niveau knowledge de le faire. Mais un client qui me dit, Matt, moi, je me start en flip, je m'en vais me faire ma mise de fonds avec ça. Tu sais, je donne les meilleurs conseils possibles, on regarde les financements, mais c'est des actifs qui sont quasiment impossibles à financer. J'ai vu trop de monde se planter là-dedans. Prenez vos liquidités puis achetez quelque chose tout simplement qui est détenu, que vous pouvez détenir tout simplement à long terme. Je pense que ça peut être une option plus brillante. Puis au pire des pires, optimisez-le pour pouvoir le refinancer plus à court terme, puis ça va être presque aussi rapide.
Parfait. Donc, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous n'êtes pas d'accord avec ma science. Sur certains points aussi, comme qu'avec ma science. Fait que j'invite les investisseurs, propriétaires à te contacter.
Oui, puis Gab, j'aimerais finir l'entrevue par le podcast Pré-Investir. Je le blogue un peu partout où je vais, mais je trouve ça important. J'ai parti une nouvelle ligne de podcast où on reçoit des invités qui vont jaser plus en profondeur. Je voulais me démarquer des autres podcasts. Mm-hmm. Les autres podcasts, on reste souvent, puis là, je ne parle pas sur le PMML, mais je parle du marché en général, on reste souvent en surface. Et moi, j'ai décidé d'aller avec des invités puis d'aller en profondeur avec ces invités-là pour comprendre leur erreur puis comprendre aussi les points positifs qu'ils peuvent vous amener. Donc, dans les derniers podcasts que j'ai tournés, j'ai vraiment appris plein de choses. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour vous de suivre ça. Donc, le podcast Pré-Investir va être disponible sur pmml.tv, bien évidemment, sur les pages de PMML, sur ma page personnelle, Mathias Haché, sur Facebook, allez me suivre. Puis tout va être là. Je mets beaucoup de contenu explicatif.
On va mettre le lien dans la description de la vidéo aussi. Yes. Aussi, ou sur le site Instagram qui est en audio.
Ouais.
Puis, c'est ça, là, on est resté en surface, mais je sais que pour avoir écouté les épisodes, tu rentres pendant 45 minutes, une heure avec un invité.
Je le rentre
puis,
dedans.
tu rentres profondément dans le sujet. Fait que, un gros merci, Mathias.
Merci, Gab.
Ça fait plaisir.
Toujours un plaisir.